Alors, l'ordre du jour, c'est de vous parler un peu des primates. Et j'avais annoncé, à la demande des organisateurs, que j'allais faire un petit exposé préliminaire pour vous expliquer ce que c'était qu'un primate et les grandes bases de la taxonomie, de la phylogénie, de l'évolution, avant d'aborder, à travers un deuxième PowerPoint, sur le sujet du jour, à savoir l'origine des anthropéoïdes. Les singes anthropoïdes, c'est-à-dire les ancêtres de notre rameau, est-elle africaine ou asiatique? Et les nouvelles données et spéculations relatives à ce débat. Alors les primates sont un ordre de mammifères qui, comme tous les ordres de mammifères, sont caractérisés par un ensemble de synapomorphies. D'ailleurs davantage par des associations de synapomorphies que par des synapomorphies à elles seules. Donc j'en ai listé quelques-uns en anglais, vous m'excuserez, mais je vais vous les traduire. Leur squelette postcrânien est caractérisé par un pouce de la main et du pied préhensile. C'est un caractère très important. Et une otapomorphie réelle des primates. Ils ont un cerveau élargi par rapport à tous les autres ordres de mammifères, représentant tous les autres ordres de mammifères. Évidemment, c'est un peu gratuit, mais si on construit une droite de régression entre le volume du cerveau et le poids du corps, on s'aperçoit qu'ils sont toujours plusieurs étages au-dessus de n'importe quel autre groupe de mammifères. Ils ont des mâchoires courtes, supérieures et inférieures, et ils ont deux incisives supérieures et deux incisives inférieures sur chaque demi-mâchoire. C'est un caractère que vous pouvez voir tous les matins sur vous-même en vous brossant les dents, alors que la moyenne, la formule dentaire moyenne normale chez les eutériens, chez les mammifères eutériens, c'est trois incisives par demi-mâchoire. Les primates en perdent une sans doute très tôt. Leur orbite, chez tous les primates, l'orbite est séparée de la fosse temporale par une barre post-orbitaire. Nous verrons que chez certains primates qu'on pourrait qualifier de supérieurs, la barre post-orbitaire est flanquée derrière par une cloison post-orbitaire qui est une caractéristique des anthropoïdes. Les yeux sont en position très antérieure. Ils ont une vision stéréoscopique et la plupart ont une vision des couleurs. La vision joue un rôle extrêmement important chez des animaux qui sont basiquement, majoritairement frugivores. Ils ont des ongles plats au lieu de griffes par rapport aux autres mammifères. Et ces ongles plats, évidemment, ne sont pas toujours présents chez les formes primitives, mais au moins sur le pouce. Chez les formes les plus primitives. Ils ont deux mamelles en position pectorale, c'est une originalité de ce groupe aussi, avec une seule exception, vous savez qu'il y en a toujours en nature, c'est le tarsus, qui en a quelquefois quatre, suivant les espèces. Ils ont une organisation complexe, une vie sociale complexe, et ils prennent soin de leurs enfants pendant une longue durée après la parturition. Et ils ont, c'est un caractère qui passe souvent inaperçu, une longévité incroyable. Si vous comparez à poids égal un chien et un babouin, la longévité moyenne qu'on peut extrapoler à partir des données dans les zoos et dans les archives, on s'aperçoit que pour un chien d'un poids moyen de 10 kilos, c'est une douzaine d'années. Pour un babouin du même poids, c'est 40 années. C'est donc très différent. Bien, alors ces primates, je viens de vous dire qu'ils ont un cerveau relativement grand, une barre post-orbitaire, ici doublée d'une cloison post-orbitaire, parce que c'est un anthropoïde, et ils ont une denture assez généralisée, dont je vous commenterai pas trop, mais disons que leur denture n'est pas trop spécialisée par rapport à ce que l'on trouve chez les autres mammifères. Ils ont gardé un type de denture mammalienne primitive. Voici une vue plus précise du pouce du pied opposable. Vous voyez que ce pouce joue un rôle extrêmement important en opposition aux autres doigts pour l'appréhension des branches et pour la vie arboricole. Il y a une grande diversité de pieds chez les primates avec une seule exception qui est la spécialisation chez les bipèdes humains. d'avoir perdu l'opposabilité du pouce du pied. Alors, fondamentalement, ces primates, cet ordre des primates, est subdivisé en deux sous-ordres majeurs. L'un que l'on appelle les Strepsirrhini, les Strepsirrhiniens, et l'autre les Aploriniens. Nous verrons que ces noms leur proviennent des zoologues anciens, d'après l'observation du nez respectif de ces différentes formes. Ces deux grands groupes, qu'on a tendance de manière, avec une déviation anthropique, d'opposer en disant ça c'est les primates primitifs, les strepsirrhiniens, ça c'est les primates dérivés parce que nous en faisons partie. Bon, on connaît la musique, c'est vieux comme le monde. Mais ces deux grands groupes, ce dont vous devez retenir, c'est qu'ils ont une origine, ils remontent à une dichotomie très ancienne, qui est estimée là avant 55 millions d'années, et qui est encore discutée, parce que, notamment, un grand débat avec les molécularistes, les molécularistes voudraient faire cette dichotomie, la repousser à 90 millions d'années, en contradiction totale avec les données paléontologiques, qui voit cette dichotomie se faire entre l'extinction des dinosaures et la fin du Paléocène. Elle est sans doute faite à la fin du Paléocène. En effet, les plus anciens strepsirrhiniens manifestent, les plus anciens aploriniens manifestent, datent à peu près aujourd'hui de 55 millions d'années, mais ils sont déjà strepsirrhiniens et aploriniens, donc la divergence est antérieure. De combien? Nous ne savons pas, mais elle n'est pas de 90 millions d'années. Voilà cette subdivision basée sur le nez. Alors, le nez de l'homme, le nez du tarsius, qui ressemble à l'homme, qui est un aplorinien, et le nez d'un lémurien malgache, qui a beaucoup de ressemblances avec un nez de chat, avec une lèvre supérieure fendue et les narines qui s'écoulent dans la bouche, à travers cette rigole. Les anatomistes ont bien entendu très rapidement retrouvé des dizaines de caractères anatomiques complexes qui opposent ces deux groupes. Un des caractères importants, c'est la vascularisation du cerveau, qui se fait par l'intermédiaire d'une artère carotide, un tronc commun qui se divise en deux, dans la gorge, avec une carotide externe et une carotide interne. Cette carotide interne a deux branches, une branche qui traverse le stapes ou étrier, qu'on appelle la branche stapédiale, et une branche du promontoire. Tout ça, ça va irriguer le cerveau. Eh bien, si l'on se concentre sur ces deux modèles, celui du lémur, un platyrrhinien, et celui du macaque, un catarrhinien, on s'aperçoit, notamment pour la branche de la carotide interne, une différence majeure entre une branche stapédiale qui seule est fonctionnelle chez les strepsirrhiniens avec la branche du promontoire qui a dégénéré, qui n'est plus fonctionnelle, alors qu'une situation rigoureusement inverse chez les aploriniens avec une branche du promontoire et l'autre branche stapédiale qui est interrompue. Autre différence, l'oreille moyenne. Et vous voyez que se concentrent autour de l'oreille les traces de cette vascularisation par l'intermédiaire de foramen crânien et d'autre part l'anatomie elle-même de l'oreille moyenne qui est un caractère très important pour distinguer les deux groupes et qui est malheureusement très rarement conservé à l'état fossile. Alors, chez les platyrrhiniens, vous voyez que l'os tympanique qui supporte la membrane tympanique, tympan, est situé à l'intérieur de la cavité de l'oreille moyenne. Dans cette cavité de l'oreille moyenne se trouvent normalement les osselets, marteau, enclume, étrier, qui transmettent les vibrations sonores de la membrane tympanique à la fenêtre ovale, à l'ouverture de l'oreille interne. Ça, c'est une disposition de strepsirrhinien. Petite variante chez le lori, mais ça c'est disposition streptyrinien. Chez les anthropoïdes, chez les formes dérivées d'anthropoïdes, l'os tympanique, lui, est transformé en espèce de petit tunnel qui prolonge et qui protège l'oreille moyenne. Cette formation est présente également chez le tarsier, un aplorinien, donc une situation d'aplorinien. Mais, par contre, chez les singes du Nouveau Monde, ce qu'on appelle des anthropoïdes platyriniens d'Amérique du Sud, vous voyez que cet os tympanique est sous forme d'anneau, c'est l'état primitif, mais soudé à l'entrée de la cavité de l'oreille moyenne, alors que chez les strepsiriniens, elle est à l'intérieur. Cet os tympanique, cet anneau tympanique est à l'intérieur. C'est un caractère très important pour suivre l'apparition des catariniens, des anthropoïdes modernes. Ces différences se retrouvent même, donc profondes entre aploriniens et strepsiriniens, dans la placentation. Les strepsiriniens ont une placentation de type épithélio-chorial, alors que les aploriniens ont des disques placentaires, un chez le tarsier, deux chez les anthropoïdes. Donc tout cet ensemble de caractères que l'on retrouve, qui affecte aussi de nombreux autres organes, mous et durs, indique que cette dichotomie est ancienne et que ces divergences se sont accumulées au cours de plus de 55 millions d'années. Alors, quelques remarques sur les strepsiriniens actuels. Les strepsiriniens actuels sont représentés fondamentalement par les lémuriens malgaches, une radiation de singes primitifs qui ont quand même quelques particularités. Parmi cette particularité, il y a que les incisives inférieures et même quelquefois la canine chez certaines formes sont inclinées, très fortement inclinées à l'avant, prennent une allure de dent de peigne et constituent ce qu'on appelle le peigne dentaire. On retrouve ce peigne dentaire chez leurs cousins qui sont non malgaches, qui sont les loris et les galagos, que l'on retrouve en Afrique et en Asie pour les loris. Donc, des strepsiriniens vivants actuels sont caractérisés par un peigne dentaire. On les retrouve chez deux groupes qui partagent un ancêtre commun. Et par contre, pour ce qui est des malgaches, on n'a aucune forme ancestrale. Il n'y a pas de fossile plus vieux que le quaternaire supérieur. Et donc, on n'a aucune idée de la formation, la genèse de ce caractère chez ce groupe. Voici une forme subfossile de Madagascar. Je passe vite. Et voici une phylogénie essentiellement moléculaire, vu qu'il n'y a pas de fossiles, des lémuriens de Madagascar. Tout ça, c'est le groupe monophylétique des lémuriens de Madagascar. C'est une radiation unique, extraordinaire, avec des formes adaptées à différents milieux et avec des tailles très différentes qui vont de la forme naine, des Cheirogaleidae, jusqu'à des formes presque aussi grandes que l'homme, des Paléopropithecidae. Et vous voyez que le groupe frère de cet ensemble monophylétique malgache, de lémuriens malgaches, dont on connaît rien sur l'origine, et c'est un sujet chaud en paléontologie et en biogéographie, le groupe frère, c'est des galagos et des loricidés africains et asiatiques, et les deux branches sont représentées depuis au moins 37 millions d'années dans le nord de l'Afrique, dans les gisements du Fayoum en Égypte. Sinon, il n'y a aucun, ils ont donc déjà des peignes dentaires, mais il n'y a aucun témoin de peigne dentaire provenant de ce groupe-là. Ni aucune trace de l'origine des formes malgaches. Je ne commenterai le raisonnement des molécularistes que après, au cours des questions. Alors, je reviens à cette phylogénie. Vous voyez là, c'est une phylogénie très simplifiée parce que vous avez les lémuriformes modernes dont je viens de vous parler, les galagidés, loricidés et lémures de Madagascar. Et vous avez un groupe de formes primitives qui a été très abondant en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique donc en général, et en Amérique du Nord et en Asie, à l'Éocène, qu'on appelle les adapiformes, qui n'avaient pas de peigne. Ce sont des lémures sans peigne. Et de l'autre côté du Rubicon, c'est-à-dire du côté des zaplorinien, on a la chance d'avoir un représentant à la fois primitif et à la fois très spécialisé, primitif par ses dents, primitif par certains aspects anatomiques, mais très dérivé par ses orbites géants qui ont profondément réorganisé la structure du crâne. Remarquez aussi son adaptation au saut avec, ça c'est un astragale et un calcaneum, très 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 allongé, et donc c'est presque l'équivalent d'une patte de grenouille sur le plan fonctionnel. Alors, on arrive, en remontant maintenant vers les anthropoïdes, on arrive à des caractères d'anthropoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anthropoïde? Eh bien, c'est un primate fossile qui présente fondamentalement un ensemble de caractères qui sont, le premier, la fermeture de l'orbite. C'est-à-dire que chez un strepsirhinien, vous pouvez passer votre doigt de l'orbite dans la fosse temporale. Chez un aplorinien, c'est fini, il y a une cloison post-orbitaire qui isole complètement l'orbite de la fosse temporale. Et on interprète cette cloison, on donne à cette cloison post-orbitaire un rôle fonctionnel qui est d'empêcher les muscles puissants de la mastication d'avoir le moindre effet de pression sur l'œil, qui devient un organe extrêmement important chez les primates au fur et à mesure de leur évolution, vu qu'il est lié à la recherche de nourriture, la vision des couleurs, les fruits mûrs, etc., etc. Premier caractère très important. Deuxième caractère important, la symphyse mandibulaire est soudée. Quand vous trouvez un anthropoïde fossile, c'est toujours, ce n'est jamais cassé à la symphyse. Quand vous trouvez des squelettes de chiens morts ou fossiles, vous trouvez toujours les deux branches, ou des vaches, vous trouvez toujours les deux branches mandibulaires séparées les unes des autres. L'os frontal, les deux os frontaux sont soudés très tôt au cours du développement des anthropoïdes. Vous voyez qu'il n'y a plus de ligne de suture présente chez l'adulte. La vascularisation, vous l'avez vu. La pneumatisation de l'oreille moyenne pour protéger l'oreille moyenne. Et évidemment, les caractères qui sont importants pour les paléontologistes, vous vous en doutez, c'est les dents. Alors les dents des anthropoïdes sont assez particuliers parce que ils ont un tubercule au molaire supérieur supplémentaire qui renforce le pouvoir de broyer les aliments que l'on appelle l'hypocône. Et c'est un hypocône qu'on désigne sous le nom d'hypocône vrai, parce qu'il dérive d'un cingulum postérieur et lingual de la molaire supérieure. Aux prémolaires inférieurs sont également très caractéristiques, parce que chez les anthropoïdes, les racines des prémolaires, au lieu d'être disposées linéairement, il y en a deux par prémolaire, ou trois quelquefois, et au lieu d'être disposées linéairement comme chez les strepsirhiniens, elles s'est disposées en oblique sur la mâchoire, perpendiculairement, souvent perpendiculairement, quelquefois oblique sur la mâchoire, et on interprète ceci comme une adaptation à raccourcir la rangée dentaire pour exercer des forces plus importantes sur les dents, au milieu de la denture, pour casser de la nourriture dure. Notez aussi un caractère d'anthropoïde qui n'est pas mentionné ici, c'est la hauteur, la grande hauteur de la branche mandibulaire et la grande hauteur qui sépare la rangée dentaire supérieure de la base de l'orbite. En fait, ces deux caractères sont des caractères liés à l'insertion de muscles masticateurs puissants que nous ne retrouvons pas chez les strepsirhiniens primitifs. Alors, ces singes anthropoïdes sont divisés, vont subir deux dichotomies successives. La première, ça va être la dichotomie entre les ce qu'on appelle les platyriniens et les catarhiniens. C'est-à-dire, je m'explique, les platyriniens, c'est les singes d'Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a une radiation en Amérique du Sud d'anthropoïdes primitifs qui se caractérise par deux caractères facilement visualisables. Ce sont la persistance de trois prémolaires au lieu de deux. Nous, on n'en a que deux. et la présence d'une queue préhensile. Quand dans un zoo, vous voyez un singe qui enroule sa queue autour d'une branche, vous êtes certain qu'il s'agit d'un platyrinien, d'un anthropoïde sud-américain. Aucun autre singe ne peut faire ça. Ils ont même des empreintes digitales à l'extrémité de la queue, c'est comme nous, c'est-à-dire comme nous au doigt, c'est-à-dire qu'ils ont un organe de sensibilité tactile exacerbée qui témoigne de l'importance pour eux de la queue dans la locomotion arboricole. Ça, c'est la première dichotomie. Les singes d'Amérique du Sud, trois prémolaires, on ne sait pas comment ils sont arrivés là-bas, mais ils y sont depuis la fin de l'Éocène. Et d'un autre côté, un groupe afro-asiatique que l'on appelle les Catariniens, et ces Catariniens, ils vont avoir que deux prémolaires. Et nous faisons partie de ces Catariniens. Plus que deux prémolaires. La deuxième dichotomie va séparer deux grands groupes d'anthropoïdes modernes. Le groupe des cercopithécoïdes DA, des cercopithécoïdes, babouins, mandrilles, cercopithèques, et le groupe des hominoïdea, ou singes sans queue, les deux se distinguant par leurs dents. Nous avons, les hominoïdea, des dents bunodontes, comme des cochons. Nous avons un régime omnivore, alors que les cercopithécoïdea ont une queue et ont des molaires lophodontes, souvent liées à la consommation de feuilles, d'un régime folivore. Là, vous avez une différence entre les catariniens, à l'intérieur des catariniens, entre les cercopithécoïdes et les hominoïdes. Remarquez surtout les molaires bilophodontes et bunodontes chez les uns, l'absence de queue, et la persistance d'une queue chez ces formes-là, des différences dans la longueur du tronc, dans la forme du nez, etc., etc. La divergence entre les grands singes et les hominoïdea et les cercopithécoïdes, on l'admet à environ 25 millions d'années en Afrique. Et là, à peu près tout le monde est d'accord. Après, les grands singes, là, c'est juste un survol instantané. Les grands singes, à partir de 25 millions d'années, vont se différencier. Vous voyez le proconsul, un des plus anciens sans queue. Et puis, il va y avoir toute une évolution complexe, que je ne détaillerai pas, qui va conduire à travers une radiation de ces singes miocènes. À l'occasion du réchauffement miocène vers 16 millions d'années, ils vont connaître une expansion géographique énorme vers le nord. Ils vont envahir l'Europe centrale, l'Asie du Sud-Est. Et c'est là que va vraiment, au cours de cette radiation, se différencier les rameaux qui vont conduire respectivement à ceux que vous connaissez et que nous allons rencontrer maintenant à l'occasion du prochain PowerPoint. C'est une dernière caractéristique. Bon, je ne vais pas détailler ça. Ça, c'était le groupe frère de l'ordre des primates. C'est ce qu'on appelle les plésiadapiformes. Certains les mettent dans les primates de base, d'autres l'excluent. Paléocène, Crétacé terminal à Paléocène, monte jusqu'à l'Éocène dans certaines régions du globe, avec des griffes, avec une absence de cloison post-orbitaire et avec un caractère complètement létal pour moi, c'est-à-dire d'énormes incisives avec un diastème. Alors quand je demande à mes collègues américains, parce que tout ça, cette partie-là de l'histoire se passerait en Amérique, ce dont je doute, mais c'est eux qui ont le meilleur fossil record, quand je leur dis « dites donc, avec des incisifs comme ça et un diastème, vous faites des bêtes comme ça », on dit « non, c'est pas vraiment ça ». Mais ces formes-là doivent dériver d'une forme primitive de plésiadapiforme virtuelle qui n'a pas encore été découverte. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut aller voir ailleurs, mais bon, ça c'est une autre affaire. Alors, parmi les plus anciens primates du fossil record, reconnus en tant que primates, sans doute, peut-être même à tort, il y a cette forme du Paléocène supérieur du Maroc que j'ai découvert il y a 30 ans et que j'ai décrit comme un primate. Il y a trop peu de dents aujourd'hui, avec ce que nous savons, il y a trop peu de dents pour certifier qu'il s'agisse d'un primate et encore plus de doutes pour considérer que c'est un anthropoïde primitif, comme le pensent un certain nombre de collègues, notamment anglo-saxons. Une forme asiatique, Altanius, également du Paléocène supérieur et dont les affinités, sans doute plus mieux connues, mieux documentées, mais vous voyez, il manque toujours des fragments de crâne qui apporteraient des données extrêmement importantes pour raconter cette histoire. Et puis, toujours historiquement, je vous ai dit que les Strepsiriniens ont connu un grand succès au cours de l'Éocène. L'Éocène était chaud partout dans le monde. On en trouve partout, en France, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique. Et un des groupes ancestraux aux lémures et aux loris actuels, ce sont ces Adapoïdes Éocènes. Et vous voyez qu'ils ont des caractères primitifs avec un museau très long, une barre post-orbitaire, mais des yeux situés assez latéralement, un astragale caractéristique, caractérisé par tout un ensemble de caractères primitifs dont nous reparlerons, des phalanges terminées pour certaines en crochets qui indiquent des griffes et des phalanges terminées en aplaties pour supporter un ongle. Voilà des reconstitutions de ces crânes. Ce premier adapis, voici un adapis. Les premiers adapis ont été découverts par Cuvier et décrits comme un herbivore inconnu. Et ce n'est que plus tard que cela, ils ont été reconnus comme des primates. Un de ces adapiformes de l'Éocène d'Europe vient d'être décrit avec force bruit. C'est Ida, sous le nom de Darwinius, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est un adapiforme classique qui présente toutes les caractéristiques d'un adapiforme, se dit en passant avec une belle escroquerie antérieure, puisque ce sont les deux parties d'une même plaque qui a été ouverte et vendue à des moments différents, à des endroits différents, à des musées différents. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces parties en dehors des parties pointillées ont été trafiquées par les marchands. Donc tout ça, ce sont des faux qui ont été rajoutés. Alors que ça, c'est certifié conforme, dit-on. Je pense que c'est vrai. Alors, cet animal, on a dit que c'était notre ancêtre, ce n'est pas vrai. C'est un strepsirinien européen d'un groupe bien précis. Et pourquoi on l'a proposé comme notre ancêtre? Eh bien, tout vieux de 47 millions d'années, on l'a proposé comme notre ancêtre parce qu'il partage 5 ou 6 synapomorphies avec les anthropoïdes. Mais nous verrons tout à l'heure que pendant le même moment, en Asie, il y a des singes qui ont 40 synapomorphies d'anthropoïdes. Et autrement dit, c'est 5 ou 6 synapomorphies d'anthropoïdes dans ce petit sous-groupe d'adapiformes éocènes d'Europe résulte tout simplement de l'homoplasie. Parce qu'en fait, ce sont des caractères simples, comme la fusion de la symphyse mandibulaire, et des choses, vraiment des caractères qui ne sont pas les caractères complexes qui identifient les anthropoïdes. Et ils sont que 5 ou 6, alors qu'à la même époque, nous verrons en Asie, il y a des taxons qui ont des dizaines de caractères d'anthropoïdes et aucun caractère d'adapidé. Alors, à l'Éocène toujours, on trouve toujours en Europe, en Amérique, en Asie, un groupe de tarsiers primitifs qu'on appelle les homomides, qui ont un museau raccourci, qui ont des grandes orbites, qui ont du postcrânien, notamment les tarses allongés adaptés au saut, comme le tarsier actuel, que certains auteurs voient comme le groupe ancestral au tarsier actuel. Ils ont une particularité très notable, c'est que les incisives antérieures se développent et les dents qui suivent les incisives antérieures ont tendance à se réduire, comme cela est indiqué. Vous voyez là une lignée évolutive nord-américaine avec l'incisive centrale qui devient de plus en plus importante, l'AP4 qui devient la dent majeure et tout ce qui est entre les deux, progressivement, vous le voyez, éliminé, d'une magnifique preuve de l'évolution dans une petite lignée de singes spécialisés. Voilà. Alors, évidemment, nous avons là les premiers fossiles du groupe des aploriniens, ancêtres vraisemblables des tarsiers. Et nous avons franchi le Rubicon, nous sommes maintenant dans l'histoire des apluriniens et donc des anthropoïdes que nous allons continuer maintenant dans un autre PowerPoint. Ça, vous l'avez déjà vu, donc les caractères des primates, je reviens pas, j'avance. Ça, c'est pour vous rappeler que nous sommes les cousins de ces grands singes. Vous savez que la morpho-anatomie, tout comme la phylogénie, les données moléculaires nous rapprochent comme groupe frère des chimpanzés, puis des gorilles, puis des orang-outans asiatiques, puis des gibbons asiatiques. Par contre, comme vous le savez, s'il y a une congruence entre les phylogénies, il y a une divergence importante dans les dates de divergence entre données par l'horloge moléculaire et les données paléontologiques qui posent de très très gros problèmes. Donc, nous avons franchi ce Rubicon, nous avons vu les homomyidés, un groupe qui va s'éteindre comme les adapiformes éocènes d'Europe, d'Asie et peut-être d'Afrique du Nord, au moment du formidable refroidissement, une grande glaciation qui se produit à la limite éocène-oligocène, il y a 33,5 millions d'années. D'ailleurs, ce refroidissement se continue jusqu'à l'oligocène inférieur, ou même est encore plus fort à la base de l'oligocène. En tout cas, ce refroidissement marque la disparition paléogène des primates en Europe et en Amérique du Nord. En Asie, on ne sait pas bien, et en Afrique, sûrement pas, puisque nous verrons que en Asie du Sud-Est et en Afrique, les anthropoïdes vont se différencier. Vous noterez en passant que ces anthropoïdes-là, dont nous allons regarder maintenant l'histoire, n'ont jamais laissé de traces ni en Europe, ni en Amérique du Nord. Les caractères de ces anthropoïdes, vous êtes censés les connaître maintenant. Leur distribution également. Notez qu'ils sont tous groupés, les actuels sont tous groupés dans les régions, les zones intertropicales. Voici le territoire des singes anthropoïdes primitifs, les platyriniens d'Amérique du Sud. On les appelle aussi les singes du Nouveau Monde. Et notez que la plupart des singes actuels, des anthropoïdes actuels, sont dans les régions tropicales, à quelques exceptions près. Et ces quelques exceptions concernent uniquement des cercopithèques, qui eux ont des capacités pour envahir les régions froides. Ça, c'est un panneau qui témoigne de la diversité des anthropoïdes au cours des temps passés, qui s'est considérablement réduite aujourd'hui. Et voici l'un des premiers anthropoïdes fossiles bien connus, le genre Eosimias, qui a été décrit par une équipe sino-américaine, Chris Beard et Tal, en 94, provenance du nord de la Chine, niveau vieux de 45 millions d'années, un remplissage karstique, et vous avez là des mâchoires inférieures et quelques dents supérieures, qui ne sont pas représentées ici, qui présentent toutes les caractéristiques des anthropoïdes. Une mâchoire élevée, des prémolaires inférieurs disposés avec des racines disposées plus ou moins en oblique, une deuxième prémolaire inférieure uniradiculée, une canine verticale, des incisives verticales et spatulées exactement comme les vôtres quand vous regardez le matin dans la glace, sauf que votre canine ne dépasse pas trop celle des autres dents, mais ceux de votre ancêtre le faisaient. Et ce plus ancien anthropoïde asiatique a suscité évidemment un débat énorme à cette époque-là, dans les années 94. D'éminents collègues éminents disaient de ce fossile que ça ressemblait davantage à un hérisson qu'à un anthropoïde. Dans le même gisement, la même équipe a décrit plus récemment un morceau de maxillaire de tarsier, aussi des dents isolées et des mandibules, mais ce qui est intéressant, c'est le maxillaire qui vous est représenté ici, parce que ce maxillaire présente une configuration anatomique similaire au tarsier actuel, un orbite déjà très grand, très très grand, et vous voyez là la comparaison, et des dents identiques que vous allez voir sur la prochaine diapositive. Voici le fossile, voici des tarsiers, un tarsier actuel. Vous voyez la ressemblance, la forme du museau, l'angulation à ce niveau-là du maxillaire, les prémolaires rigoureusement identiques. Et des images au CT scan que je ne vous ai pas ramenées montrent que l'orbite était déjà quasiment aussi grand chez les Tarsus d'il y a 45 millions d'années qu'ils le sont aujourd'hui chez les Tarsus actuels. Résultat, comme nous appartenons au même groupe, la divergence Tarsus-anthropoïde est forcément antérieure à 45 millions d'années, puisque dans ce gisement, on a déjà des anthropoïdes et des tarsiers. Tout récemment, il y a quelques mois, un mois peut-être, des collègues américains et indiens ont découvert quelques dents en Inde datées de 55 millions d'années qu'ils attribuent à des anthropoïdes. Donc, on aurait la racine des anthropoïdes dans le sous-continent indien il y a 55 millions d'années, mais il y a un débat sur ces dents. Certaines sont sans doute pas des anthropoïdes, d'autres le sont peut-être. Disons qu'il y a trois dents, il serait souhaitable d'en avoir davantage, ça viendra, il suffit d'attendre. Et donc, pendant le temps où mes collègues américano-chinois travaillaient en Chine, moi, mes recherches m'ont intéressé au Myanmar. Alors, le Myanmar, on en parle beaucoup pour des tas d'autres raisons, mais c'est un endroit où, au siècle dernier, on avait signalé quelques restes de mâchoires de primates. Et donc ces primates, je souhaitais les réexaminer et reprendre les missions de terrain. Alors pour aller au Myanmar, on atterrit à Yangoun. De Yangoun, on prend un avion, si on est pressé, pour aller à cette formidable capitale du 11e au 13e siècle qui s'appelle Pagan, où il y a 2300 temples conservés de cette époque. C'est un endroit absolument magnifique. Puis on traverse l'immense rivière Irrawaddy. Et on s'engage vers le centre-ouest du pays, dans une région que l'on appelle la région des collines de Pondang. Tout de suite après la mousson, c'est un peu périlleux. Les seuls moyens de locomotion possibles étant les chars à bœufs et les éléphants. Voici une vue générale de ces affleurements de la formation de Pondang. Alors, il s'agit de formations fluviaux deltaïques, avec même quelquefois des quelques dents de requins d'eau saumâtre. Donc on n'est pas loin de l'embouchure de la mer. On peut penser qu'il s'agit d'un proto-Irrawaddy, c'est-à-dire d'un ancêtre, et que en fait l'Himalaya doit déjà commencer, non pas l'Himalaya lui-même, mais des massifs granitiques devaient pousser vers le nord, monter vers le nord et provoquer des érosions très importantes sous un climat tropical pour donner ces plaines d'inondations, avec des niveaux rouges et des niveaux blancs, et qui correspondent souvent à des paléosols dans lesquels on trouve de nombreux nodules carbonatés qui se produisent au contact des racines dans les plaines marécageuses. Là, on a découvert un petit primate qui s'appelle Bainia, du nom du village d'à côté, dans une de ces couches. Sans doute ces primates venaient boire là, étaient les victimes des prédateurs. C'est tout petit, j'ai oublié de vous dire que le précédent, l'Éosimias, le plus ancien anthropoïde de Chine, 45 millions d'années, avait un poids corporel estimé à 150 grammes. Là, on est à 400 grammes. Vous voyez que le début de l'histoire de nos ancêtres se fait à des tailles extrêmement petites. Et ces tailles extrêmement petites exercent d'énormes contraintes sur le métabolisme et sur le régime alimentaire. Alors, ce Bainia présente, aussi bien pour son crâne, sa mandibule et ses molaires, ici supérieures et inférieures, toutes les caractéristiques qu'on s'attend d'un anthropoïde primitif, à un degré d'évolution plus élevé que le précédent, que l'Éosimias. Ce qui fait que la communauté internationale l'a accepté plus vite. En plus, il y en avait deux maintenant d'Asie. Et donc, ils ont accepté relativement rapidement l'appartenance de ce fossile aux anthropoïdes. Et donc, c'est ce groupe, il ressemble beaucoup En plus dérivées, en moins pointues, les dents sont moins pointues, moins de type hérisson. Il ressemble à plus à un anthropoïde, si vous voulez. Et ce qui a facilité la reconnaissance du groupe, qu'on appelle les éosimilidés, comme des anthropoïdes primitifs. Et vous voyez que là, on aurait des anthropoïdes primitifs assez vieux, de 40 à 39 millions d'années, 45 à 39 millions d'années, qui irradient en Asie. Alors aujourd'hui, concernant ces fossiles éosimilidés, il y a maintenant un large consensus pour considérer qu'on est à la base de la radiation des anthropoïdes modernes, des anthropoïdes, des crown anthropoïdes, comme disent les anglo-saxons. Donc, le débat est clos en ce qui concerne ces éosimilidés. En Asie, il y avait des anthropoïdes entre 45, sans doute plus vieux, et 40 millions d'années. Là où les choses se compliquent légèrement, c'est qu'en Asie, bien sûr en Afrique aussi, mais nous reviendrons sur l'Afrique. En Asie, ces petits éosimilidés sont associés, toujours dans la même formation de Pondang, avec des gros singes anthropoïdes de plus de 10 kilos et qui ont des caractéristiques d'anthropoïdes éclatants, des mâchoires très robustes, très hautes, des couronnes très basses, une symphyse mandibulaire subverticale, ce qui implique des incisives verticales et une canine verticale. Donc on est là en plein dans les caractères d'anthropoïdes. En vue occlusale, voilà une mâchoire trouvée en 2 années successives. Vous voyez l'intérêt de retourner sur le terrain. En 2006, on a trouvé ça et on a remué ciel et terre pour trouver la suite parce qu'on savait que la cassure était fraîche. Mais on l'a pas trouvé, il a fallu attendre la mousson qui a suivi, pour l'année prochaine, trouver le morceau qui correspond. Et ainsi, au fil des années, on arrive à reconstituer des pièces de plus en plus complètes. Alors regardez les couronnes des molaires basses, regardez les prémolaires très obliques sur la rangée dentaire, et tout ça, on rejoint là tous les caractéristiques dentaires des anthropoïdes. Récemment, on a trouvé un nouveau genre qui permet de relier tous les représentants de ce groupe d'Asie du Sud en une seule et même famille monophylétique qu'on appelle les amphipithécidés. Oui, mais il y a un problème. Une équipe américaine qui a travaillé quelques années avant nous avait ramassé un humérus et quelques autres os du pied, ça c'est de là du bras, plus quelques autres os du pied, d'une forme de primates, toujours au même endroit, dans la même formation de Pondong, qui présentent des caractères très différents des caractères d'anthropoïdes. Si vous comparez l'extrémité distale de ces deux humérus, c'est très différent, alors que l'extrémité distale de ces deux humérus, de cet humérus, est identique à ce qu'elle est chez un adapiforme. Identique, on ne peut pas le réfuter. C'est irréfutable. Autrement dit, les gros anthropoïdes que nous avons vus désignés, regroupés sous le nom d'amphipithécidés, trouvés dans tous les sites d'Asie du Sud, entre 7 et 10 kilos de poids corporel moyen, seraient donc des chimères avec des dents d'anthropoïdes et du postcrânien de lémuriforme, de strepsirhinien. Et donc seraient, d'après certains collègues, des strepsiriniens qui, par convergence, de manière homoplasique, ont acquis des caractères d'anthropoïdes. Bien, les fossiles sont rares. S'il y avait des milliers de fossiles, le problème serait facilement résolu. Quelques années plus tard, nous avons trouvé un astragal, toujours dans cette formation de Pondong, qui est un astragal qui cumule toutes les caractéristiques anatomiques des astragales d'anthropoïdes. Autrement dit, maintenant, il y a, et on vient d'en retrouver un deuxième, donc, maintenant on a des évidences de squelette postcrânien d'un côté de strepsirhinien, dans la même gamme de taille, et du squelette postcrânien d'anthropoïdes. Comment associer? Difficile. En l'absence de découvertes de pièces uniques, si vous voulez, comme vous avez vu pour Ida. Alors, en fait, L'Asie du Sud-Est est vaste et il y a des fossiles partout. Donc nous travaillons depuis de nombreuses années dans cette mine de lignite qui date de 35 millions d'années. Tout ça, ça a été daté par paléomagnétostratigraphie. Et ces lignites sont brûlées dans une centrale thermique pour produire de l'électricité. Voici la couche de lignite, vous voyez le pendage, les niveaux fluvio-lacustres supérieurs. Et la plupart des fossiles que nous avons ramassés dans cette mine, mais il y en avait deux autres au nord et au sud, proviennent des charbons. Et dans ce charbon, un jour, à côté de nombreux fossiles, de nombreux autres groupes de mammifères, nous avons trouvé un animal qui avait une mâchoire supérieure et inférieure, qui avait toutes les caractéristiques des amphipithécidés de Birmanie, à savoir des branches horizontales de la mâchoire très hautes, des dents à cuspide basse, broyeuses, massives, etc. Je vous passe les détails. Toute l'anatomie convergeait à faire de cette forme un amphipithécidé. Encore une fois, des mâchoires et encore des mâchoires. En 2000, dans la même mine, nous avons trouvé cette fois-ci une autre mâchoire de cette même forme associée en occlusion avec un maxillaire. Et ce maxillaire présentait quelques restes de la région antérieure de l'orbite. Ce maxillaire a été scanné et ses mandibules ont été scannées et on a procédé avec des collègues de l'université de Zurich à une reconstitution indépendante faite par quatre personnes différentes et travaillant en toute indépendance à partir des CT scans. Et vous voyez que la reproduction est extrêmement homogène et nous verrons que par la suite va être utilisée pour essayer de faire une analyse phénétique de comparaison de ces formes, de la forme de ce crâne et de cette mandibule avec les autres primates actuels et fossiles. Voici une vision de la molaire sup avec les reliefs en couleur qui n'est évidemment pas à cette échelle-là, mais cette échelle correspond à la reconstitution du crâne que je vous donne là, généralisée. À partir de cette reconstitution, nous avons repris un certain nombre de points homologues, 18 points homologues, nous avons pu définir des points anatomiques remarquables, si vous préférez, que nous avons pu définir sur cette face, cette vue de face, et que nous avons remesuré sur plus de 190 crânes de primates actuels et fossiles, dont la plupart avaient été scannés. Une analyse de correspondance et une projection de tous les crânes sur ces trois composantes principales révèle un axe où des points correspondant aux anthropoïdes sont tous groupés et un axe où les crânes correspondant aux strepsiryniens sont tous groupés. Et les quatre constitutions du Siamopithecus, du fossile que vous avez vu tout à l'heure, tombent évidemment systématiquement parmi les anthropoïdes. Par ailleurs, tout récemment, nous avons trouvé un humérus de ce Siamopithecus qui est identique à ceux des humérus d'anthropoïdes modernes. Alors, pour conclure, en ce qui concerne ces amphipithécités de Birmanie, eh bien, nous avons maintenant des arguments puissants pour dire que les amphipithécidés sont des anthropoïdes, mais que faire de ces os postcrâniens qui appartiennent incontestablement à un anapiforme dans le même gisement et un anapiforme de taille similaire à celle des grands représentants de ces amphipithécidés? Bien, la réponse est claire. Nous avons découvert des strepsyriniens, des lémuriformes fossiles associés à ces anthropoïdes, et nous formulons l'hypothèse très forte que ces squelettes postcrâniens qui n'ont jamais été trouvés associés à des résidentaires d'anthropoïdes appartiennent en fait à une forme de strepsyriniens, de lémuriformes de grande taille dont nous n'avons pas encore trouvé les dents, mais nous recherchons. Je pense que nous avons une demi-dent actuellement. Alors, évidemment, dans ces conditions, l'histoire des anthropoïdes en Asie devient très intéressante, et surtout en Asie du Sud, parce qu'en Asie du Nord, en Asie centrale et en Asie du Nord, Il y a bien eu des anthropoïdes il y a 45 millions d'années, mais vers 30 millions d'années, il semble qu'ils disparaissent et se réfugient uniquement vers le sud, soient confinés uniquement vers le sud, sans doute à cause de la glaciation finie et éocène. Donc nous avons eu l'occasion de retourner dans un site très célèbre au Baloutchistan, dont les niveaux les plus anciens remontent à 34 millions d'années, dont les niveaux les plus récents à 8 millions d'années, dans un bassin extraordinaire qui a été célèbre dès le siècle dernier pour avoir livré des restes du plus grand mammifère terrestre jamais, qui ait jamais vécu sur Terre, un rhinocérotidé, qui a changé plusieurs fois de nom d'ailleurs, parce qu'il s'est appelé au départ le Baloutchitère, puis l'Indricotère, et puis aujourd'hui il a un autre nom dont j'ai oublié, je renonce à suivre. Tout ça c'est des jeux de taxonomistes qui sont pas très intéressants. Mais ce animal géant venait des niveaux de l'Oligocène supérieur et où il n'y avait pas d'anthropoïdes. Alors, ces sites se situent au centre du Pakistan. Malheureusement, l'inconvénient, c'est que ça se trouve non seulement au Baloutchistan, une région assez inhospitalière, mais ça se trouve dans un Baloutchistan qui appartient aux tribus, ce qu'on appelle les territoires tribaux. Donc il faut avoir l'autorisation et des tribus et du gouvernement fédéral pour pouvoir travailler là-bas. Bref, on a eu la chance de pouvoir travailler 5 ans là-bas et d'analyser, réanalyser en plus en détail les coupes. Et vous voyez que l'Éocène supérieur est marin. Il y a des tas de squelettes de baleines qui traînent dans tous les coins, mais nous n'avons pas eu le temps de nous y intéresser parce que nous cherchons au niveau continentaux. Cette série marine d'Éocène sup avec des bourrées de numulites, va laisser la place à une croûte ferrugineuse dont personne n'a jamais compris la signification paléo-environnementale, sédimentaire, etc. Et par-dessus se développe une série fluvio-lacustre avec des sables à stratification entrecroisée, des argiles, des argilites, etc. C'est la coupe, la croûte ferrugineuse que vous voyez là, et le niveau de sable dans des stratifications entrecroisées, c'est un niveau fluviatil, que nous avons tamisé à sec et tamisé en humide, c'est-à-dire sous l'eau, avec une très riche faune de micro-mammifères. Ça, ces photos ont été faites quand on a commencé à trier le soir, avec une très grande diversité allant des marsupiaux, des rongeurs, des créodontes, des carnivores, des insectivores, des chauves-souris, des lémures volants, des cochons, des ruminants, des chalicotères, des rhinos. Et bien entendu des primates. La grande surprise, c'est que parmi les primates, on a trouvé quelque chose qu'on ne recherchait pas. Une forme très particulière de petits primates qui ressemblait, comme deux gouttes d'eau par ses dents, à un chérogaléidé, c'est-à-dire un microcèbe malgache. Ressemble comme deux gouttes d'eau, avec une seule différence, c'est qu'apparemment le peigne dentaire n'était pas encore parfaitement exprimé, et en tout cas, nous n'avons pas trouvé de morceaux de la mandibule avec les incisives en place. C'est dommage, parce qu'il reste maintenant la suspicion que le peuplement de lémuriens ne se soit fait à Madagascar, non pas à partir de l'Afrique, mais peut-être à partir d'une souche asiatique, à une époque où l'Inde était plus proche de Madagascar, où il y a eu des traînées volcaniques de l'éruption des trappes du Décan, du hotspot de la Réunion, qui a fait une ride à travers l'océan Indien. Bref, l'affaire est encore à suivre. Et nous avons trouvé, une fois de plus, les amphipithécidés. Voici des dents isolées, des molaires d'une nouvelle forme d'amphipithécidés. Et d'un néosimidé, c'est-à-dire qu'on trouve en Asie, dans tout l'Éocène et jusqu'à la base de l'Oligocène, des anthropoïdes éosimidés et amphipithécidés dans toute cette zone-là d'Asie du Sud. Pendant ce temps, que se passe-t-il en Afrique? Quelle était la situation en Afrique? Eh bien, d'abord, vous voyez que d'après la paléogéographie classique, la plaque africaine est complètement isolée. Donc a priori, on ne devrait trouver que des animaux endémiques du groupe des afrotères, comme disent les molécularistes, c'est-à-dire damans, iracoïdes, éléphants, macro-éléphants à trompe, macrocélididés, etc., etc. Or, en fait, on trouve une faune tout à fait cosmopolite en Afrique, à cette paléocène. Et nous verrons qu'on y trouve des primates, des rongeurs, et plein d'autres groupes qui ne sont pas des afrotères, et qui sont donc arrivés d'ailleurs. Alors, la légende de l'origine africaine d'anthropoïdes, elle remonte plus de 50 ans, et des travaux qui ont été menés par les collègues américains dans le riche gisement du Fayoum en Égypte, dont l'âge s'étend d'environ 37 millions d'années jusqu'à 30 millions d'années. Donc, il couvre l'Éocène supérieur et l'Oligocène inférieur. Et c'est la découverte, et uniquement dans ce site d'anthropoïdes et en Afrique, qui a conduit de riches faunes d'anthropoïdes bien documentées, au cours de plus de 30 années de recherche par Elwin Simons, a conduit à l'idée que l'Afrique était le berceau des anthropoïdes, tout simplement parce que on n'en connaissait pas ailleurs et on n'en connaissait pas d'autres. Moi-même, j'ai contribué bêtement à cette légende parce que dans les couches paléocènes marins datées de 60 millions d'années dans le sud du Haut Atlas marocain, je vous rappelle que j'ai découvert il y a très longtemps ce primate, Altiatlasius, qui nous avons décrit comme un homomyidé à l'époque, et que un certain nombre de collègues, et dans tous les livres maintenant, tous les textbooks anglo-saxons, vous trouverez ça comme le plus ancien primate, et peut-être même, pour certains, le plus ancien anthropoïde. Or, vous voyez, là, on cimente, on a des anthropoïdes diversifiés dans le Fayoum, à l'Éocène Sup, et dès le Paléocène Sup, on a des anthropoïdes, donc l'Afrique est le berceau des anthropoïdes. Malheureusement, les quelques dents qui existent ne sont pas suffisamment diagnostiques pour affirmer qu'il s'agit de primates, et encore moins pour affirmer qu'il s'agisse d'anthropoïdes. Et vous verrez pourquoi dans la diapo suivante. Un autre fossile qui constituait un repère très important dans l'histoire africaine des anthropoïdes provient d'une petite collection de dents, je crois que c'était 4 dents, découvertes en Afrique du Nord, dans le désert algérien, du côté de la frontière marocaine, dans le Glibzigdou, dont l'âge n'est pas très précis actuellement, on est en train de faire la magnétostratigraphie. Mais bon, on estime d'après la faune associée à environ l'Éocène inférieur. Donc un jalon important entre le Paléocène Sup et l'Éocène Sup d'avoir de l'Éocène inférieur. Et ces dents présentaient une morpho-anatomie occlusale caractéristique des anthropoïdes. Alors le régal des cladistes, vous codez tous ces caractères et vous tombez en plein dans les anthropoïdes, rien à faire. Or, vous savez que l'Algérie a connu des problèmes, et entre la découverte dans les années 90 et aujourd'hui, il y a eu 25 années où nous n'avions pas accès à l'Algérie. D'ailleurs, personne n'avait accès à l'Algérie, encore moins à la frontière marocaine où se passaient des tas de choses. Et nous avons pu retourner à partir d'il y a 3 ans pour réexploiter ce site, et nous avons eu la chance de trouver des lentilles très riches, dont une lentille, oui, bourrée d'os, du poisson, une arête, une épine dorsale de poisson, et tout ce qui est blanc, c'est de l'os, et une lentille dans laquelle il y avait des restes de mâchoire, et qu'il a fallu dissoudre à l'acide pendant plusieurs années. Et à l'issue de ces plusieurs années, un de mes collaborateurs, Tabus, de l'Université de Montpellier II, Rodolphe Tabus, a mis en évidence des mâchoires de cette forme. Et aux surprises, si les molaires correspondent évidemment parfaitement à celles qui avaient été décrites comme des anthropoïdes, la denture antérieure, les incisives, les prémolaires et les molaires ne ressemblaient en rien à des anthropoïdes, et il ne s'agit pas d'anthropoïdes, ce sont des caractères homoplasiques qui affectent les molaires, qui font ressembler ce groupe sans doute de strepsyrhiniens, d'adapiformes, à des anthropoïdes. Exit, donc, la trace éocène inférieure, des gros doutes sur la trace paléocène. Donc, vous voyez que jusqu'à nouvel ordre, il n'y aurait donc pas d'anthropoïdes avant l'éocène supérieur en Afrique. pour essayer d'en savoir plus, et voici le plus ancien anthropoïde d'Afrique, je m'excuse, la photo est un peu ratée, décrite par l'équipe américaine qui travaille au Fayoum, provenant d'un niveau très ancien, le plus ancien qu'ils aient, 37 millions d'années. Et ça, c'est un maxillaire, mais ils ont un très beau matériel, dont un bout de crâne et une mandibule. Et il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un anthropoïde. Et il s'agirait donc du plus ancien anthropoïde africain, absolument certain. Pour investiguer cette affaire un peu plus dans le détail, nous avons décidé de reprendre le site de Dor el Tala, dans le sud-est de la Libye, dont on estimait l'âge comme contemporain de celui du Fayoum. Ce gisement était très célèbre pour ses grands mammifères et n'avait livré qu'une incisive de rongeur comme petit mammifère. Et vu l'âge, là c'est la version précisée de l'âge par nos travaux, vu l'âge, il était extrêmement intéressant de voir quel type de primate on pouvait trouver, parce que ça pouvait correspondre à la période que nous soupçonnions être à l'origine des primates asiatiques, à l'immigration asiatique qui amenait les premiers primates anthropoïdes en Afrique. Donc nous avons cherché, le gisement, c'est une falaise d'environ 80 mètres de haut, constituée de dépôts fluviatiles et lacustres, mais fortement influencée par un delta, et partout on trouve, jusqu'en haut, on trouve des mâchoires de requins-ci, ceux qui sont capables de rentrer loin dans les deltas, mais on trouve aussi des requins tout court, et donc il y a constamment un mélange entre des niveaux fluviatiles, deltaïques, marins et continentaux. Vous avez là un crâne de crocodile. Et ces séries, donc, je vous ai dit, 80 mètres de haut sur 145 km de long. Il y a donc quoi travailler pendant des années. Mais nous voulions des petits mammifères, or c'est le royaume des grands mammifères. Voici par exemple deux crânes d'éléphants primitifs de l'Éocène supérieur, le Baryterium, et le crâne d'une forme nouvelle, pas encore décrite, le Midotherium, enfin le genre du Midotherium existe déjà, mais cette forme est complètement nouvelle et c'est sans doute l'ancêtre des éléphantidés modernes. Des tonnes de proboscidiens, mais nous nous intéressions aux petits mammifères, primates, rongeurs, insectivores. Et donc, nous avons fait du tamisage à eau, en plein désert. Alors, en utilisant toute l'eau disponible pour tamiser, et évidemment pas pour se doucher. Ça nous a permis de récolter une riche faune de rongeurs. Et l'intérêt des rongeurs, c'est d'une part de documenter un groupe d'origine asiatique également, donc qui est déjà bien diversifié ici. Vous avez là trois formes de ce groupe originaire d'Asie. Des iracoïdes, ça c'est des formes endémiques d'Afrique, et rongeurs et iracoïdes vont nous permettre de resserrer, de préciser l'âge biochronologique en comparant avec les autres gisements du Fayoum notamment et d'autres gisements d'Afrique. Et finalement, des primates, quelques dents de primates, et voici deux images extraordinaires d'un nouveau primate du Dor el Tala, tout petit, puisque vous avez là une échelle d'un millimètre. Il s'agit d'un éosimilidé. Bien, c'est très intéressant de trouver des éosimilidés en Afrique. Ça prouve l'origine asiatique des éosimilidés. Ça confirme une immigration. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on a trouvé une dent comparable dans le gisement du Pondong, en Birmanie, contemporain chronologiquement. Et vous voyez l'extraordinaire similitude entre les deux formes. Il y a des différences dans cette région-là, mais vu la distance, la similarité est extraordinaire et indique qu'on est en train, dans ces sites, de saisir l'arrivée des formes asiatiques en Afrique, et sans doute l'arrivée à travers plusieurs vagues successives pendant tout la fin de l'Éocène moyen et l'Éocène supérieur. On a des évidences, en fait, pour prouver qu'il y a eu plusieurs vagues successives. D'autres primates, anthropoïdes également, qui sont des formes de transition qui entre des formes typiquement asiatiques et les formes africaines documentées au Fayoum. Alors, pour conclure, que sont devenus ces anthropoïdes asiatiques? Parce que le destin des anthropoïdes africains, on le connaît, Ces anthropoïdes africains vont donner naissance, vont évoluer en Afrique et vont donner naissance au Miocène inférieur, aux premiers hominoïdes et aux premiers cercopithèques. Ceci est acquis. Mais quid, que sont devenus ces anthropoïdes asiatiques? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'ils ont donné naissance, ils ont été la source de multiples immigrations vers l'Afrique pendant l'Éocène, et puis ils ont fini par s'éteindre en Asie, à l'Oligocène inférieur ou l'Oligocène moyen. Ce n'est pas bien documenté. Ou alors, ils ont continué à évoluer en Eurasie, donc ils ont envoyé plusieurs vagues d'immigration en Asie, mais ils ont en Afrique, mais ils ont continué d'évoluer sur place de manière endémique en Asie, et ils ont peut-être donné naissance à certaines lignées d'hominoïdes asiatiques. En particulier, je pense à l'origine asiatique des pliopithécides, qui est tout à fait possible à partir de ces formes. Malheureusement, nous manquons de formes, d'abord de gisements oligocènes en Asie du Sud et du Sud-Est, et dans ces gisements oligocènes, il y en a quelques-uns, nous manquons de formes d'anthropoïdes de taille, d'assez grande taille, qui pourraient être en relation, en rapport avec la réponse à cette question. Enfin, je voulais aussi insister sur le fait que cette histoire des échanges entre deux domaines tropicaux, africains et asiatiques, dans l'apparition des caractères modernes qui conduisent aux anthropoïdes modernes, va se retrouver exactement au cours de la discussion du débat concernant Toumaï et ses ancêtres. L'histoire des hominoïdes entre les ancêtres des orang-outans, les ancêtres des dryopithèques en Europe occidentale, des uranopithèques en Grèce, des formes africaines d'Afrique orientale, des proconsulidés. Tout ce débat, on va retrouver quelque chose d'extrêmement similaire à discuter de la même façon. Et les leçons que nous allons tirer des formes éocènes vont pouvoir servir à éclairer peut-être la situation miocène et l'origine, cette fois-ci, d'un stade d'évolution plus proche de nous, qui est celui des hominidés représentés par Toumaï. Voilà, je vous remercie de votre attention.